Radio Okapi.
Babel Pongo Massimango, micro, madame, monsieur, bienvenue à cette édition du journal. Lutte contre Ebola en Ituri, l'on assiste à davantage de mobilisation. Autorités, sociétés civiles, personnel de santé et autres partenaires, tous mettent la main à la pâte, c'est notamment le cas à Bounia, Magui, Arou, Djougou. Tous sensibilisent la population avec comme objectif commun de stopper l'expansion du virus. La journée nationale du barreau, elle a eu lieu hier 10 juillet. Occasion pour le barreau du Maniema, locataire jusque-là, de lancer un SOS pour appuyer ses efforts dans la construction d'un bâtiment propre. Unité, l'appel des enseignants vers des banques limitées, c'est la réforme que vient d'initier la DINACOPE. C'est la direction nationale qui s'occupe notamment du contrôle de la préparation de leur paie. Alors comment cela se passe et quels en sont les avantages? Notre invité, Njori Ngandou, directeur provincial de la DINACOPE dans la province éducationnelle Maniema 1, nous explique tout cela. Madame, monsieur, bonjour. Lutte contre l'épidémie d'Ebola en Ituri. La mobilisation se porte bien. Elle s'intensifie d'ailleurs. Pour preuve, autorités politico-administratives, acteurs de la société civile, personnel de santé et partenaires humanitaires s'y mettent. Tous multiplient des campagnes de sensibilisation dans plusieurs localités. Objectif, renforcer toujours l'adhésion des communautés aux mesures de prévention, lutter contre la désinformation et favoriser un changement de comportement afin de freiner la propagation de la maladie. C'est ce que nous dit Isaac Kremoyope depuis Bounia.
Parmi les structures engagées figure l'association culturelle Louri qui regroupe la communauté Lendo en partenariat avec l'INADI, une plateforme réunissant 21 communautés de l'Ituri. Depuis mardi, ces organisations mènent une campagne de sensibilisation à Bakombe dans les territoires des Djougou. Cette campagne sera progressivement étendue à l'ensemble des villages du secteur de Walendu-Dzatsi. Dans le même temps, la société civile de Ngoté a renforcé ses actions de sensibilisation à Kwandroma ainsi que dans plusieurs localités des territoires de Mahagi et Daru. De son côté, la police de la MONUSCO a organisé mercredi dernier une session de sensibilisation au centre de formation de la police nationale congolaise à Bounia. Au total, 299 recrues, dont 48 femmes, y ont pris part afin de mieux connaître les mesures de prévention et de pouvoir relayer les informations fiables auprès de la population. Des activités similaires sont également organisées dans plusieurs sites des personnes déplacées, particulièrement exposées au risque de propagation de l'épidémie. L'objectif de ces activités est d'informer la population sur les mesures de prévention contre Ebola, de combattre les fausses rumeurs et d'encourager les signalements rapides des cas suspects. Selon les organisateurs, ces campagnes commencent à produire des résultats. Les équipes de riposte reçoivent davantage d'alertes sur des cas suspects. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Réduction des violences basées sur le genre à Kinshasa et dans ses environs. Environ 40 représentantes des organisations féminines responsables de la société civile et partenaires engagés dans la promotion des droits des femmes à l'école du savoir. Elles ont été formées hier vendredi dans cette optique. Ces échanges ont permis aux participantes de développer des stratégies pour améliorer la prévention, l'identification des cas aussi, l'accompagnement des survivantes de violences sexuelles et celles liées au genre. Cet atelier a été initié par l'ONG Solidarité des femmes sur le fleuve Congo, sauf l'écho avec l'appui technique de l'UNFPA. Rodney Tibonera pour les détails.
Les participants sont désormais capables de comprendre les concepts et clés de VBG, d'identifier les différentes formes de violence, d'en maîtriser les causes, les conséquences et les facteurs des risques. Pour Narcisse Balingene, ces travaux permettront de résoudre les défis qui touchent les femmes autochtones.
Ça va nous aider encore à reconstruire ces femmes, que ce soit dans la réinsertion, que ce soit aussi à développer la confiance en elles-mêmes. Donc nous sommes vraiment capacités par la matière.
Associé à ces assises, Josué Binyangi a exprimé son souhait de devenir ambassadeur de Sofleco afin de mobiliser les communautés à contribuer à faire de la RDC un pays exemple de violences basées sur les genres.
Nous devons dénoncer les violences basées sur les genres. Nous quittons cette haute comprenant que même si on subit les violences, mais une fois récupéré, on peut toujours continuer la vie.
Conscient des défis, Becky Mboissé, responsable de Sofleco, mise sur l'appui de tous pour réussir ses paris de vaincre les VBG.
Nous invitons tout le monde à prendre conscience des droits humains. Tout être humain, que ce soit femme, peuple autochtone, pygmée et même les hommes, bien évidemment, ont le droit à la dignité.
La solidarité des femmes sur le fleuve Congo a pour mission de bâtir un réseau fort le long du fleuve Congo et de ses affluents afin de promouvoir la justice climatique, les droits liés aux ressources naturelles et l'autonomisation socio-économique.
Journée nationale du barreau hier 10 juillet, son siège de cette structure au Maniema. Une occasion pour ce barreau de réclamer son propre bureau en vue de s'engager à sa construction. Un pas a quand même été franchi hier, c'est la pose de la première pierre par l'autorité provinciale. Ces travaux de construction prendront au maximum 2 ans selon le planning. Ils sont financés en grande partie par le barreau grâce aux cotisations des avocats. À l'occasion de cette célébration, un appel à l'aide est lancé aux hommes de bonne volonté pour permettre au barreau du Maniema de terminer ses travaux dans un délai raisonnable. Florence Kizalunga nous en dit plus.
Ce bâtiment d'un niveau sera érigé sur l'avenue 3E2. D'après les bâtonniers, être locataire depuis 2010 ne leur a pas facilité la tâche. Aimant sa profession, il s'engage à sa construction. Hassani Kayombo, le bâtonnier.
C'est depuis 2010 que le barreau du Maniema, grâce au barreau américain, le barreau du Maniema a été doté d'une maison de location et dont le loyer est évalué à 350 $. C'est par mois. Vous voyez, chaque fois que nous organisons nos assemblées général, nous sommes obligés d'aller prendre des salles en location. Tout ça, ça nous a gêné pour dire non au statut de locataire et initier ce projet ici, dont nous venons de lancer le début des travaux. Et nous estimons que avec ce bâtiment qui sera érigé sur les terrains propres du barreau, nous serons déliés de cette malédiction de l'état des locataires. Moi, je reprends toujours le principe de Napoléon qui dit « Celui qui veut paix et celui qui paie doit ». Nous n'avons pas assez de moyens, mais les quelques réalisations à régime. C'est grâce tout simplement à une bonne volonté, la bonne volonté du bâtonnier et de l'équipe des membres du conseil de l'ordre qui l'entoure.
Signalons que les coûts estimatifs de ce projet est de $160 000 américains. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Le calme est revenu dans la cité de Dilolo, province du Lualaba, après des troubles qui ont eu lieu jeudi. Et d'après plusieurs sources locales, les bureaux abritant les tribunaux de paix et le parquet près de ce tribunal ont été saccagés puis incendiés par une foule en colère. À la base de ces incidents, la mort d'un homme arrêté au parquet à la suite d'une plainte de sa femme après une dispute. La prison de Dilolo a donc été attaquée par des manifestants. Quelques détenus se sont même évadés. Le point avec Paulin Munanga.
Durant l'instruction devant un OPJ du parquet, l'homme a fait un malaise. Et c'est en cours de route vers l'hôpital général de référence de Dilolo qu'il est mort, souligne l'administrateur assistant de Dilolo en charge des questions économiques et financières. Socrate Chikos précise que la famille de la victime, accompagnée par une foule de la population, est allée déposer les corps devant les bureaux du parquet près le tribunal de paix de Dilolo. La famille accuse le parquet d'avoir traîné avec la victime qui était souffrante. Les manifestants en colère ont vandalisé puis incendier les bureaux. Ensuite, ils se sont attaqués à la prison de Dilolo. Simplice Mwamba, porte-parole du cadre de concertation de la société civile dans les territoires de Dilolo, dénonce ces incidents. Mais il condamne la justice qui, d'après lui, doit être équitable dans cette entité.
Les jeunes gens ont incendié le parquet ainsi que les tripés. Et après, ils sont allés libérer 6 prisonniers qui étaient là. La justice doit être équitable. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas ici à Dilolo. Le magistrat a arrêté les gens arbitrairement et puis les amendes.
L'administrateur assistant de Dilolo annonce que les services de sécurité ont ouvert une enquête pour retrouver les fauteurs des troubles. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Kinshasa, des journalistes de plusieurs médias sensibilisés hier vendredi sur la stratégie et les réalisations du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. À l'actif du PDDRCS, près de 6420 ex-combattants déjà démobilisés, dont environ 830 femmes, plus de 1200 armes à feu, 1400 armes blanches ainsi que plusieurs munitions récupérées depuis la mise en place de ce programme. Et ce n'est pas tout. Au moins 20 700 enfants ont aussi été sortis de groupes armés. Ainsi, le coordonnateur national du programme PDD-RCS demande aux journalistes d'appuyer sa structure pour la réussite de sa mission. L'appel de Jean des Dieux Ntanga Ntita au micro de Richard Junior Kamunga.
Le PDDRCS, c'est votre programme. N'oubliez pas que le DDR, le relèvement communautaire et la stabilisation interviennent dans un environnement très complexe et cette complexité nécessite une synergie, nécessite également une très bonne communication institutionnelle et interpersonnel pour pouvoir véhiculer correctement les messages. Et la force que nous avons à travailler avec vous, c'est que le PDDRCS se distingue des autres programmes et des autres initiatives par son approche communautaire. Et cet engagement communautaire ne peut être possible, ne peut être facilité que grâce à la synergie, grâce à la collaboration et au travail de proximité avec les organisations comme les vôtres.
La société Kamoto Kapor Company en difficulté à Kolwezi dans le Lualaba, ce géant minier est placé sous scellé depuis jeudi par la Direction générale des impôts. Motif, non-paiement d'environ 3 milliards de dollars américains d'impôts, indiquent certaines sources. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, Lualaba, salue cette initiative de la DGI et appelle KCC au respect des obligations fiscales. Le point avec Paulin Munanga.
Les installations de l'entreprise KCC, filiale du géant suisse Glencore, ont été placées sous scellé, entraînant ainsi l'évacuation du personnel et la suspension temporaire des activités. Selon certaines sources, la DGI réclame le paiement d'impôts estimés à environ 3 milliards de dollars américains. Nous n'avons pas pu obtenir la réaction des responsables de KCC. Pour sa part, le coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'homme du Lualaba, Arthur Kabolo, invite l'entreprise minière KCC au strict respect des lois fiscales en RDC. Cependant, il exhorte toutes les parties prenantes à privilégier le dialogue et la voie légale pour un dénouement rapide de ces litiges. D'après le secrétaire général de la Ligue congolaise contre la corruption, l'ICOCO, Ernest Mpararo, ce n'est pas la première fois que Glencore et ses filiales sont accusées d'insolvabilité. Il rappelle qu'en 2022, KCC, Mutanda et Mumi étaient en contentieux avec la DGRAD, la DGI et la DGDA. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Et dans ce journal aussi, la joie de plus de 800 ménages victimes d'inondations fluviales dans la ville de Kindu. Ils sont assistés en cash, en prise en charge médicale et en renforcement des capacités. C'est dans le cadre du projet de réponse aux crises des inondations fluviales qui s'est clôturé jeudi dernier. Ce projet d'urgence de 2 mois a été exécuté par le mouvement des droits de l'enfant, de la femme, de l'homme veuf et de leur promotion sociale, MIDEFEOPS. En plus, 3 structures sanitaires ont été appuyées en médicaments pour la prise en charge de ces sinistrés et la construction des latrines dans ces structures. Florence Kizalunga nous explique ce qui a été fait.
Durant ces 2 mois, les communautés affectées par les inondations fluviales ont été notamment sensibilisées sur comment se comporter avant, pendant et après les inondations. Le superviseur du projet Igue Katembo s'en réjouit.
C'est une note de grande satisfaction au fait que nous avons atteint vraiment les 800 ménages ciblés. Dans l'avenir, c'est que les autres organisations qui, au-delà des aspects humanitaires, peuvent aussi s'investir dans la prévention puisque les fleuves est là et la population est là. C'est question des capacités de cette population pour ne pas savoir comment transformer les faiblesses actuelles en capacités.
L'autorité provinciale, tout en saluant le bon déroulement de ces projets, réitère son appel aux sinistrés de quitter les zones inondables. Docteur Alexis Tchomba, ministre provincial des actions humanitaires.
Évidemment, on a été très content parce que le déroulement du projet était bien. Je suis satisfait. La recommandation que nous avons donnée à la population qui vit dans les zones inondables, de chercher à quitter ça, parce que ça revient chaque année. Et à chaque année, on les revient en aide, ils doivent quitter cette zone-là.
Signalons que ces projets d'urgence n'avaient qu'une durée de 2 mois, soit du 10 avril au 9 juin. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Le manque d'eau potable perturbe le quotidien des habitants de Lusambo dans la province du Sankoro. Ils sont contraints de consommer l'eau brute des rivières Sankoro et Lubi et cela dure depuis bientôt 1 mois et demi. À la base, une panne survenue sur les générateurs du centre de la régie des eaux Lusambo, cela handicape la distribution d'eau. Conséquence, des ménagères parcourent de longues distances pour certaines, plus de 2 kilomètres pour d'autres en vue de se ravitailler aux rivières Sankoro et Lubi ou encore dans des sources aménagées depuis plusieurs années, mais souvent non entretenues. Explication Estan Dalafina.
Dans les quartiers, les scènes des femmes parcourant de longues distances avec des bidons en main, bassins sur la tête pour atteindre les puits aménagés et les rivières Sankuru et Lubi pour puiser l'eau brute se répètent. Selon Denise Nyang, cette corvée est devenue épuisante.
Nous souffrons énormément pour avoir d'eau, même pour se laver, pour préparer.
L'eau de la rivière n'est pas propre, affirme Rebecca Kalanga, mais nous n'avons pas le choix.
La rivière Sankuru commence dans des mines. Les gens qui sont au milieu ils n'ont pas de besoin dans l'eau, les enfants sont obligés de boire cette eau-là.
Pour contourner cette difficulté, Jacqueline Ngongo se réveille tôt le matin avant que la rivière soit agitée.
Je me réveille à 4 heures du matin pour aller chercher de l'eau à la rivière Sankourou, distance de 2 km.
Face à cette situation, la population pointe du doigt la régie des eaux dont le générateur principal est en panne depuis quelques semaines. Interrogé Didier Mboudilelo, directeur régional de la régie des eaux, se fait rassurant.
Les fonds sont déjà disponibles. On réunit les pièces de rechange pour aller réparer les groupes électrogènes et remettre les centres
en service. En attendant la remise en service du réseau, les habitants de Lusambo déplorent déjà la noyade d'un de leurs fils. Esther Ndalafina Mboujimaï, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Plus de 38 000 ressortissants malawites ont quitté l'Afrique du Sud dans l'espace d'un mois, dans un contexte de tensions croissantes visant des populations étrangères. Le Malawi a ainsi annoncé hier avoir organisé le retour de 38 094 de ses citoyens entre le 7 juin et le 8 juillet, alors que de nombreux migrants affirment fuir des menaces, des intimidations et des violences liées à une montée des discours anti-immigrés.
L'invité.
Unifier la paie des enseignants vers des banques limitées, c'est la réforme que vient d'initier la DINACOPE, Direction nationale de contrôle de la préparation de la paie et de la matricule des effectifs des enseignants et personnels administratifs des établissements scolaires. Pour en parler, nous recevons le directeur provincial de la DINACOPE de la province éducationnelle Maniema 1. Il nous explique le bien fondé de cette démarche. Njori Ngandu Mwanalu Kengu, notre invité s'entretient avec Florence Kizalunga.
Ngandu Mwanalukengu Djori, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
Qu'est-ce qui justifie cette situation de délocalisation brusque de plus de 1200 enseignants de la ville de Kindu, de la Tembe vers la Rawbank?
Ce qui justifie la délocalisation de quelques paies des enseignants de différentes banques, donc de la Tembe à la Rawbank, de la Rawbank à la Tembe, c'est la réforme de la paie. Auparavant, on constatait un désordre, un établissement scolaire avec son personnel, on trouve deux ou trois payés à une banque, les autres payés à une autre banque. Alors, l'État a pensé unifier cette paie-là, ramener tous les agents payés d'un établissement à une seule banque, de façon à nous permettre, nous, à contrôler, n'est-ce pas, chaque mois, l'évolution de la paie et la paie même effective des enseignants. C'est ce qui justifie cette délocalisation.
Quand vous demandez à une seule banque de payer tous les enseignants, ne pensez-vous pas que la banque sera débordée? Est-ce que cette situation ne peut pas causer d'handicap dans le fonctionnement des écoles et des enseignants?
La paie ne concerne pas une seule banque. Nous avons deux banques payeuses ici à Kindu. Nous avons la Rawbank, nous avons aussi la Tembe. Donc ce mouvement, la délocalisation ici des paies des enseignants, nous avons pris quelques enseignants qui étaient payés à la Rawbank, parfois deux enseignants. Et nous constatons que à la Tembe, il y a cinq enseignants. Nous prenons les deux, nous ajoutons à cinq. C'est ce qui a été fait. Donc il n'y aura pas débordement. Ce que nous avons voulu, c'est l'unification de la paie, rendre une paie réelle et facile à contrôler.
Alors, la réforme en question, c'est seulement dans la ville de Kindu. Qu'en est-il des enseignants des autres territoires? Ils seront payés par les banques qui ont l'habitude de les payer?
Non, la délocalisation pour nos territoires a été déjà faite. Donc, à l'intérieur, c'est la Caritas qui est payée. Mais la délocalisation a été déjà faite. C'est la TID qui a pris relève maintenant, qui paye à travers Vodacom M-Pesa de chaque agent. Donc, tout agent de l'intérieur payé jadis par la Caritas est payé pour le moment à la TID qui a son siège à Butembo. Donc c'est une microfinance qui paye très bien sans problème et dès qu'on lance la paye, la TID ne connaît aucun retard. Voilà pourquoi nos enseignants de l'intérieur sont payés aussi sans problème.
La TID en question n'a pas de représentation ici en province. Autrefois, nous avons suivi les lamentations de certains enseignants qui étaient obligés de quitter leur lieu d'affectation pour chercher comment se faire identifier et cela a pris du temps et a causé même des désagréments dans le fonctionnement de l'enseignement. Est-ce que ce problème a pris fin?
Le problème a pris fin parce que vous voyez, la délocalisation, c'est une question aussi que vous me posez pour les écoles du centre-ville de Kindu. Vous voyez, lorsqu'on délocalise, ça prend aussi du temps. L'identification a pris du temps, c'est pourquoi les enseignants se plaignaient. Et pour le moment, moment, nous avons échangé. Moi, personnellement, j'ai parlé avec les autorités de la TID pour que l'identification des nouveaux enseignants de l'intérieur soit faite au niveau des antennes, à la sous-division. Et c'est ce qui est fait. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Les enseignants, parfois, qui se plaignent aujourd'hui, qui ne sont pas encore payés, ce sont les enseignants-là dont les numéros Vodacom n'ont pas été ouverts ou les comptes non élargis, tout ça. Il y a des problèmes comme ça qu'a connu, n'est-ce pas, l'identification rapide de ces enseignants-là. Mais pour le moment, je crois que le problème a été résolu et il n'y a pas de difficulté pour la paie à la TID.
Vous êtes sûr que ce mouvement ne va pas causer des torts aux enseignants et aux écoles de la ville de Kindu? Il y a certains qui se plaignent déjà, disant que le mois de juin est passé, ils n'ont pas encore reçu leur salaire. Ils craignent que ce soit ainsi pour le mois de juillet.
Madame, le mois de juin vient de terminer. Aujourd'hui, c'est le 6. Je crois que ce que moi, personnellement, je peux demander aux amis de la Roi Banque ou de la TMB, c'est d'accélérer avec l'identification, avec l'ouverture des comptes de nos enseignants, afin de les permettre à toucher à leur salaire, parce que le salaire aussi a un caractère alimentaire. Et donc, lorsque l'enseignant reste 30, 35 jours sans être payé, vous voyez aussi la vie des familles. Nous demandons aussi aux enseignants de suivre l'ordre établi par la banque pour faciliter la tâche aux opérateurs pour que cette paye se passe dans le calme et sans bruit.
Ngandu Manalukengu Jori, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Il s'agit du directeur provincial de la DINACOPE, la province éducationnelle Maniema 1. Fin de ce journal, Yevin Bengala a préparé la mise en nom dessinée du Dodi Nyangasa. Babel Pongo Massimango vous l'a présenté. Merci à vous qui venez de nous suivre. Bon week-end.